policier, commissaire, détective, quel beau métier! Sans même parler des détectives étrangers, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, plus récemment Wallander, Denis Mankell ou Myron Bolitar, je crois qu'on dit Darlan Coben, tant d'autres étrangers, nous avons aussi en France une longue liste de commissaires célèbres. Le premier d'entre eux, Maigret, avec Simenon. Et bien sûr, Rouletabille, Nestor Burma, écrit par Léo Malek, est un régional de l'étape. Léo Malek a vécu à Montpellier. Plus récemment aussi, le commissaire Adamsberg de Fred Vargas, Cicéron Angle Droit, Gabriel Le Couvreur dit Le Poulpe. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, San Antonio, Fabio Montal. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un commissaire qui a la force de Maigret, l'humour de San Antonio et l'intuition de Nestor Burma, mais qui a surtout sa personnalité bien à lui et bien trempée, et qui le mène à résoudre des enquêtes palpitantes. La première enquête se passait en Corse. La deuxième se passe chez nous, à Montpellier, dans le milieu des interactions entre notables véreux et voyous mafieux. Son créateur, un commandant divisionnaire de la PJ à la retraite depuis juillet 2019, homme de passion, d'engagement, vient de nous parler de son livre « Montpellier Confidential ». Bonjour Fred Bolloxen.
Ben bonjour Nathalie, merci de me recevoir. C'est ma première radio, donc... Voilà, je suis très content.
On va passer un bon moment ensemble.
Je suis persuadé.
Fred Bolloxen, d'abord quelques mots sur vous. Quand on va sur votre bio, vous êtes d'origine danoise.
Alors, hein, non, voilà, alors je vais dévoiler quelques secrets. Après le reste, il faudra faire votre
mais
propre
en Corse.
Enquête. Alors, je suis né en Corse il y a 60 ans, oui, à peu près.
Et Saint-Drézérien d'adoption.
Saint-Drézérien d'adoption, je m'y suis installé. Voilà.
Donc, après, vous nous remettez tout ça dans l'ordre.
Je pense qu'on nous a adopté après. Donc, né à Ajaccio en 59 et Saint-Drézérien depuis 2003. Après, quand même une trentaine d'années passées en Corse jusqu'au bac et puis en poste aussi à la criminelle dans les années 80. Et puis après, il y a une quinzaine d'années à Paris, et j'ai terminé à Montpellier. Alors, je ne suis pas d'origine danoise. L'explication vient du fait qu'un soir, j'étais en train de dîner avec mon épouse et mon fils. Je leur ai dit, bon, je vais sortir mon premier roman. Il est quasiment terminé. Il me faudrait un nom, mais il me faut un pseudo, un nom de plume. Donc, j'ai gardé le prénom de mon épouse qui s'appelle Frédéric, d'où Fred. Et Bolloxen, c'est mon fils qui me dit, il est parti sur Bologman. Et puis non, Bolloxen, c'est bien, ça fait comme Adler Olsen, ça fait un peu danois, suédois, scandinave. Voilà, ça devrait le faire, voilà. Et après, Joseph Jo Corti, parce que Joseph, c'est mon véritable prénom, voilà. Et les amis m'appellent aussi Jo. Et Corti, pour boucler la boucle, Corti était le nom de famille de ma maman qui s'appelait Corti Cato, du nom du même village en Corse du Sud. Voilà.
Corti, c'est vraiment très corse.
Ah oui, c'est très corse. Il y a un DJ qui s'appelait Philippe Corti, je crois.
Philippe Corti qui était tout le temps chez Ardisson quand il faisait les émissions.
Mais on n'a pas de lien de parenté, je pense pas. Quoi qu'en principe, chez nous en Corse, souvent...
Tout le monde est du village. Hein.
Tout le monde, voilà, le nom de famille cible le village. Et c'est vrai que Cutoli Corti Cato, il y a des Cutoli, il y a des Corti Cato, il y a des Genesine aussi, des Scorsini, etc. Voilà, mais on se retrouve par rapport au village, oui.
Donc toute une carrière à la police, à la PJ.
Toute carrière à la police, rentré à 20 ans, parti à 60, voilà, au moment où j'ai estimé que j'avais fait mon temps et où j'avais envie de me consacrer à mes trois passions, l'écriture de romans policiers, parce qu'en activité j'avais un peu de mal à trouver une plage horaire. Le théâtre, parce que j'ai aussi une petite troupe de comédie amateur sous Saint-Drézéry, mais... nous étions prévus pour le festival Off d'Avignon cette année, reporté donc l'année prochaine à cause de la Covid-19. Et puis ma troisième passion, la lecture, je suis un très gros lecteur. Voilà,
ça se sent, on
sans
y
la
va.
Boulimique, voilà, j'avale énormément. Hein.
On y reviendra quand on parlera plus particulièrement du personnage de Jo Corti, mais ça se sent que vous êtes un gros lecteur. C'est ce métier quand vous avez, bon, je pense, résolu plein d'enquêtes, enfin au moins résolu, j'espère.
Participer, on va dire.
Participer, voilà.
Résolu aussi certaines, après participer. Après, il y a un terme dans notre jargon, on parle parfois d'une résolution policière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut connaître le dénouement, l'explication d'une enquête sans pour autant arrêter le ou les auteurs ou sans avoir réussi à faire parler le ou les auteurs en question, quoi.
Et vous avez pris des notes pendant toute cette carrière?
Jamais. Jamais, non. Mais j'ai une très grosse mémoire. Donc ça m'a servi au théâtre, ça me sert au théâtre. Et puis ensuite, j'ai dans ma tête les noms de centaines de milliers de livres que je peux avoir dans ma bibliothèque. Donc quand je fais des références, ils sont classés par ordre alphabétique. Donc du moins, j'ai le nom de l'auteur ou du polar qui me vient. Voilà.
Qui vient comme ça. C'est toutes les histoires qui sont dans ces enquêtes, c'est des histoires que vous avez vécues ou il y en a carrément que vous avez inventées?
Elles sont toutes fictives. Je ne voyais pas l'intérêt de partir sur une histoire vécue parce que qu'allais-je écrire? Raconter ma version, ma vérité, entre guillemets, avec des gros guillemets. Donc, je n'y voyais pas l'intérêt. Par contre, beaucoup d'anecdotes, je les ai vécues. Alors, je les ai transposées pour diverses raisons, où j'ai changé le nom des gens ou les lieux, mais beaucoup, je les ai vécues, effectivement.
Non, c'est du roman, il faut préciser pour les auditeurs tout que ce n'est pas Roger Borniche. C'est pas Borniche racontait sa vie, ses enquêtes.
Non, pas du tout.
Qui a été, enfin bon, maintenant... Plus personne ne fait beaucoup référence à Borniche, mais dans les années 70-80, c'était un très, très, très gros...
Tout à fait,
voilà, même plein d'enquêtes de Borniche avaient été adaptées au cinéma.
Oui,
avec,
oui, puis,
Tiens, bah, qui est-ce que vous voyez dans votre Joseph Corti? Quel comédien, si vous deviez mettre un comédien?
Ah,
à part vous, parce que visiblement, on fait du théâtre.
Oui, mais je suis un peu... J'ai une vingtaine d'années de plus que Corti. Je ne sais pas, Gérard Lanvin.
Ouais.
Gérard Lanvin, enfin, un brun, 75-80, un brun, yeux marron, voilà, moi. Bon, après, aujourd'hui, James Bond est bien blond, donc après,
oui,
on peut s'adapter, mais bon, voilà. Non, mais Lanvin, ouais.
La première parution, donc, rappelez-nous le titre du premier qui
alors,
se passe
premier,
en Corse.
Alors, le premier s'appelle « Chacun son tour dans les bras de grand-mère ». Alors là aussi, il y a une explication, parce que la traduction en Corse, c'est « Imbra Chaminano ». Et quand vous dites ça à quelqu'un, vous lui dites qu'en fait, ça y est, il a droit au bonheur et aux belles et bonnes choses de la vie. Sauf que dans mon premier polar, qui se passe à Ajaccio, deux ou trois des protagonistes emploient cette formule, mais la grand-mère, j'ai pris le contre-pied, c'est la mort.
D'accord.
Et la mort qu'on voit sur la couverture du livre, la Camarde est assise sur le panneau d'Ajaccio à l'entrée de la ville. Voilà. Alors juste un petit mot parce que je voudrais remercier parce que mes couvertures, beaucoup de gens flashent la couverture. C'est mon ami François Micheli qui les réalise. Il part de photos libres de droit et puis il ajoute, il enlève, mais il passe. Je sais qu'il passe des nuits dessus, mais ça c'est un passionné. Et la caractéristique de chacun de mes livres, c'est qu'il y a une photo de l'endroit où se passe l'enquête, de la ville où se passe l'enquête. Et François Micheli me les met un peu à sa sauce.
C'est voilà. Lui qui les redessine.
Il les redessine entièrement, oui. Ouais.
C'est joli, c'est entre la peinture et presque la bande dessinée, je trouve. Il y a un
mais
côté dessin de BD.
C'est vrai que ça peut rappeler certaines couvertures de Santonio et certains dessins de Santonio. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est les polars. Souvent, c'est du noir et blanc, donc ça rend pas. Alors, si vous connaissez l'auteur, moi, le premier, je vais aller peut-être l'acheter. Mais autrement, j'avais toujours été impressionné par les couvertures d'un éditeur marseillais qui s'appelle Gigal. Et toutes ces couvertures ont des couleurs qui pètent.
Qui pètent.
Voilà,
hein.
Que ce soit Maurice Guirand ou Del Papas ou autre. Et je me suis dit, tiens, ce jour, je sors un bouquin. Voilà, je veux ce genre de couverture.
Parce que c'est vous qui les faites entièrement, donc votre ami pour la peinture.
François Micheli me fait la couverture et ensuite tout le reste, ben, c'est moi. Alors maintenant, j'ai une amie aussi qui est prof de français à la retraite qui s'est mis à la relecture de mes bouquins parce que le problème de l'auto-édition, c'est pas un secret, je le reconnais, le revendique. Il y a toujours une petite coquille ou deux, voire une paire de coquilles qui vont traîner à droite à gauche. Je ne trouve plus, même chez les autres éditeurs aujourd'hui, de bouquins où il n'y a pas de coquilles. Voilà.
Même chez les grands éditeurs.
Même chez les grands éditeurs.
Voilà.
Donc voilà, j'ai une amie qui me relie, puis je refais une dernière lecture. Et puis, il arrive que si des petites coquilles subsistent, eh bien elles sont corrigées à la nouvelle impression, quoi, à chaque fois.
Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, bon, vous êtes à la retraite et vous décidez d'écrire? C'était quelque chose que ça faisait 20 ans que vous disiez, ah là, quand j'étais à la retraite, je vais écrire. Et puis tout d'un coup, crac, on ouvre les vannes et ça...
J'étais gamin, je voulais écrire. Donc après, ça s'est fait vraiment de façon progressive, mais progressive sur une quarantaine d'années. C'est-à-dire que je me rappelle quand j'étais à Paris, c'est moi qui faisais les pots de départ de mes copains, alors en alexandrin ou en octosyllabe. C'était assez
acerbe.
C'est drôle, acerbe, voilà, je m'adaptais à la personne. Tant et si bien qu'à un moment donné, certains de mes directeurs prenaient la parole 20 secondes, et puis bon, voilà, on laisse la place à Joe. Et tout le monde attendait avec impatience parce que je savais que j'allais croquer la personne en question. Mais j'ai surtout commencé à écrire de façon un peu plus, pas organisée, mais un peu plus sérieuse. En 2006-2007, je m'étais inscrit à un atelier d'écriture. Et là, c'est pareil, l'histoire, souvent, ce sont des belles rencontres. Et moi, j'ai la chance d'avoir fait de très belles. Et c'est vrai qu'à cet atelier d'écriture, j'ai rencontré Colette Pirollo, qui nous chapeautait. Nous étions un groupe de 12. Et elle m'a un peu pris sous son aile et m'a donné pas mal de conseils. Et puis, on continue à se voir. On continue à se voir. Elle lit aussi mes livres.
Elle fait partie des gens qui relisent
Non, mais elle aime bien le personnage. Et puis, l'atelier d'écriture, à l'époque, c'était pour écrire quelques scènes de ce qui pourrait être une future pièce de théâtre. Effectivement, après cette pièce, on a continué à l'écrire à deux ou trois. On l'a montée et puis on l'a jouée pendant une paire d'années. Voilà. Donc, après, il y a une grosse différence entre l'écriture de dialogue. C'est-à-dire qu'il y a une grosse exigence, je trouve, au niveau de l'écriture théâtrale. Parce que vous pouvez écrire X pages de dialogue. Et quand, comme je dis, l'image, vous les prenez assis dans un fauteuil, c'est plaisant à lire, sauf que ces mots, ces phrases, ces dialogues ne vont pas passer sur une scène de théâtre, mm-hmm. parce qu'il y a la gestuelle derrière et les éclairages ou autres. Et parfois, il faut recommencer. Alors que la chance qu'on peut avoir sur un roman, c'est que, ma foi, il n'y a personne qui vous dit, à moins que vous ayez un éditeur, personne ne va vous dire, il faut couper trois pages à tel chapitre, ça va pas, quoi.
Les voilà. Éditeurs, si, c'est justement ça, c'est que... Quand vous êtes dans une grosse maison d'édition, il y a un retravail. Il y a des gens, il y avait une fille qui s'appelait Françoise Verny, qui était très connue, qui a retravaillé tous les bouquins qu'il fallait qu'elle disait. Il disait, je ne pouvais pas écrire un livre si Françoise Verny ne le relisait pas. Après, c'est très frustrant. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Laborie, c'est pareil. Son éditrice lui avait vraiment fait supprimer tout un chapitre. Et c'est difficile aussi pour un écrivain de...
Après, si on est en confiance, moi je sais qu'au niveau théâtre, notre dernière pièce de théâtre, L'Ascenseur était en panne, on l'a joué pendant 4 ans dans les Raux, dans le Gard. On est parti la jouer en Corse, à Ajaccio, Porto Vecchio. On l'a joué à Avignon, on a rempli, donc du coup, c'est ce qui a motivé le fait qu'on puisse être pris sur le off l'été dernier. Oui, notre dernière pièce de théâtre, c'est qu'à un moment donné, ma metteuse en scène, Denise Gaujou, m'avait fait couper, alors que nous jouions les deux premiers actes, elle m'avait fait couper les trois premières pages de l'acte 3. Alors, il faut employer les mots, il y a un côté castrateur,
oui,
quand même,
bien
parce
sûr,
que trois
voilà,
pages sur 15 sur un acte, mais elle avait raison. Elle avait raison.
Ils ont souvent raison.
Ils ont souvent raison. Et dans la mesure où vous êtes dans une relation de confiance, ben on ne discute pas et je ne discute pas. Voilà. Donc, et ensuite, pour le roman, ben c'est un palier supplémentaire. Et là aussi, c'est une belle rencontre. C'est, j'ai assisté à une conférence d'Yves Demas, qui est un ancien collègue.
Qu'on a reçu ici.
Voilà. Et Yves est quelqu'un de très humain, de très simple. Et il a lu Chacun son tour des bois de grand-mère. Il m'a appelé 4 jours après. Il vient me voir, on boit un café. Il m'a dit, tu peux y aller. Vas-y, il y a juste ça à raccourcir, ça il y en a trop, donc sois un peu plus concis. Et puis là, laisse planer le doute, le lecteur de lui-même, il faut qu'il gamberge un peu. Voilà. Et j'ai repris l'écriture du premier polar et j'ai créé de nouveaux personnages, des deux petits vieux qu'on trouve entre divers chapitres qui commentent les assassinats à leur façon, avec la gouaille ajaxienne.
Tout à l'heure, vous parlez de croquer, c'est marrant, je trouve que c'est un mot qui va vraiment. Très bien ce que vous avez écrit, parce que c'est vous croquez vraiment les personnages, c'est-à-dire qu'on les imagine très très bien. Enfin bon, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, tous les personnages qui sont dans Montpellier Confidentiel. Le premier, bien sûr, c'est Corti. Vous le croquez aussi, c'est-à-dire vous nous le dessinez. Vous apportez beaucoup de soin à ça, à la création du personnage, à tout ce que vous allez... Ce personnage que vous allez mettre, comment il va être, comment vous l'habillez, comment vous le coiffez
Alors, je serais tenté de vous répondre aucune, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mon caractère chez Joe Corti. Il a un côté un peu franc-tireur, alors j'ai pu l'être à un moment donné, mais il a surtout un caractère assez trempé, et il va dire ce qu'il pense, peu importe qu'il en fasse. C'est ce que j'ai souvent fait au long de ma carrière, avec parfois certains déboires, parce qu'en fonction de la position hiérarchique de ce que vous avez en face de vous, et quand vous le dites ce que vous avez à lui dire, même parfois en réfrénant de certaines animosités ou autres, c'est sûr qu'il faut après payer cash, comme on dit. Voilà. Donc Corti, il y a un peu de moi dans Corti, du moins à ce niveau-là. Donc après, le croquer, je peux le croquer si avec des mots, mais je n'ai pas cherché ces mots. Voilà. De même que beaucoup de mes personnages, en fait, il m'arrive même de je sais très bien à qui je pense quand je fais parler un personnage ou quand je parle de lui. Et ce sont des gens, alors effectivement, toute ressemblance avec la réalité serait fortuite et involontaire. Mais je peux penser à certaines personnes quand j'écris certains de mes livres et quand je fais parler certains de mes personnages.
Stéphanie, vous l'avez rencontrée ?
Stéphanie.
Faut dire qui est Stéphanie.
Alors Stéphanie Mallard. Stéphanie Mallard, c'est l'inspectrice qu'on trouve dans le premier polar. Et je parle de Carrie, de rugbyman. Elle est très grande. Elle est enrobée et elle est très sympathique de toute manière. Et c'est surtout une grosse bosseuse. C'est une grosse travailleuse. Ouais. Donc non, elle a pas existé. Ou alors c'est un mélange de plusieurs personnes. Et ce qui est assez marrant, c'est que les gens qui ont lu les trois premiers romans, mais quand est-ce que revient Stéphanie? Quand est-ce qu'elle revient?
Est-ce qu'elle est dans le premier, dans le deuxième,
elle est dans
mais
le
pas
premier,
dans le troisième?
Elle est dans le premier. Elle est dans le deuxième. parce qu'elle est quand même inspectrice à la PJ Ajaccio. Et mon héros Corti, alors il faut le dire, Corti, le commissaire Corti, est rattaché au cabinet du directeur central de la police judiciaire aux affaires réservées, ce qui lui donne une compétence nationale. D'où aussi ma marque de fabrique. Chacune de mes enquêtes se passe dans une ville différente. Donc Ajaccio pour le premier, Montpellier pour Montpellier Confidential, Montpellier et Bayonne pour le troisième pour une poignée de kebab. Le quatrième, bon ben je vous donne la première.
Il faut dévoiler là, c'est pas possible.
Il va s'appeler La Mort ne sonne jamais deux fois, il se passera à Paris. Et là, je suis dans le cinquième. Donc, dans le cinquième, Stéphanie Mallard revient. Pas longtemps, mais elle revient. Voilà, parce que plein de gens me disent qu'est-ce qu'elle devient celle-ci, voilà. Mais il y a des petits trucs à tiroir. De même que l'adjudant-chef Boudu, qui est adjudant à la gendarmerie de Portici dans le premier, je l'ai muté à Pradel, en Haute-Loire, dans le troisième, en période d'attentat. Voilà.
C'est un homme aussi. À femmes, hein, vraiment. Les libraires, donc là c'est pareil, le goût des femmes et le goût de la librairie, puisque au début de Montpellier Confidentiel, il séduit une libraire d'à Paris, puisque là ça commence à Paris, justement, parce qu'il est à chaque fois détaché en province. Mais ça, il existe, c'est une question que je vous posais en off, mais il existe ce service qui.
Non, ce poste particulier n'existe pas. Après, je pense que dans la réalité, en fonction de la sensibilité de certaines affaires, peut-être qu'on va donner une enquête à un groupe, un service précis, plutôt qu'à un autre. Mais non, je voulais me faire plaisir, et puis j'écris surtout, alors c'est peut-être un peu égoïste, mais j'écris vraiment pour me faire plaisir, moi. C'est-à-dire que le matin, quand je lève le capot de mon ordinateur, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire qui me fasse plaisir? Et je sais que si la veille, j'écris un chapitre où je me suis mis en danger à la fin justement de ce chapitre au niveau d'écriture, eh bien je vais changer d'endroit, de lieu, de gens, quitte à écrire un personnage pour écrire ce que j'ai envie d'écrire au moment ou à l'instant T.
Et maintenant, voilà. Vous écrivez tous les jours?
J'écris tous les matins, de 8h30 à midi, 13h. Voilà. Mais il m'a fallu quelques mois avant de trouver ma bonne plage horaire. Et c'est là où si j'arrive à écrire un chapitre en entier, sans être quantitatif, 8, 10, 12 pages, ça dépend si c'est du dialogue ou de la narration, mais j'écris le matin. Voilà.
Fred Bolloxen, avant de continuer à bien découvrir Montpellier Confidentiel, on va marquer une petite pause musicale. Vous avez choisi pour nous La Mauvaise Réputation.
Brassens.
Ouais. Vous nous dites pourquoi ?
Je ne sais pas, ça m'a semblé pas évident, mais j'aime bien, c'est mon côté un peu provoque.
D'accord.
Je ne pense pas avoir mauvaise réputation, mais bon, vous savez, dans la police, comme notre métier, il y a toujours des gens qui, à un moment donné, ont pu vous jalouser pour X raisons. Donc après, des réputations, vous en faites une mauvaise, même si la vôtre est très bonne. Donc c'est un jeu, faut jouer, voilà.
On écoute, même si on connaît bien, on réécoute.
Merci.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Eh bien, rebonjour après cette pause musicale avec Georges Brassens. Nous retrouvons Fred Bolloxen pour son livre Montpellier Confidentiel. Et là, on va vraiment parler de Montpellier Confidentiel et des héros, des portraits, de tous ces personnages qui le traversent. C'est quoi l'histoire? Vous pouvez nous la raconter?
Alors l'histoire, en fait, le directeur central PJ, Jean-Louis Michu, GLM, envoie Joe Corti à Montpellier parce qu'en fait, il y a trois amis d'enfance, alors amis d'enfance et qui sont surtout aussi amis en affaires, qui commencent à avoir des problèmes à un moment donné, tous à la même période. Donc un élu, le baron du BTP local, et puis un ancien braqueur reconverti qui gère en sous-main, entre guillemets, de façon officieuse, un casino avec la Gardiole. Alors, il n'y a pas de casino avec la Gardiole, je tiens à le préciser.
Et le nom du maire de Castelnau n'est pas le maire de Castelnau.
Non, pas du
vous
tout.
Vous lui avez envoyé le livre?
Non, je n'ai pas envoyé, mais vous êtes, il n'y a plus de personne qui me l'a dit. Je pense que je vais lui envoyer.
Je pense que oui. S'il a de l'humour,
voilà.
Voilà.
Mais il y a beaucoup de Castelnauviens qui l'ont acheté. Donc, ces trois personnes connaissent des problèmes quasiment dans à la même période, des coups de feu contre leur façade, incendie de voiture, de locaux, des menaces de mort, etc. Et on envoie Joe Corti parce qu'en fait, l'élu en question est pressenti pour être le futur ministre de l'Intérieur. Donc, mon héros a quelques jours pour voir si cette personne est assez, comment dire, vierge de tout reproche pour occuper un poste aussi important. Et parallèlement, il y a trois histoires, le livre commence comme ça, trois histoires qui se passent dans les années 80-90, voilà, une vingtaine d'années avant, où il y a une histoire de viol, il y a un braquage qui se passe mal, et il y a un suicide, et du coup, au même moment, ces histoires ressurgissent. Voilà. Et à un moment donné, je pars de très large pour recentrer au niveau des personnages, au niveau de l'action.
Voilà. Avant que l'émission commence, je vous disais que j'avais été particulièrement sensible à la dynamique de l'écriture. C'est vrai que souvent on parle d'une histoire, un récit, surtout dans des premiers ou deuxièmes romans, on a rarement un style abouti. Moi, ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Je veux dire, je suis rentrée, premier chapitre, j'étais dedans complètement. Et avec une écriture comme ça, très, très rapide, très, très dynamique, des portraits courts, des scènes. Je sais pas, il y a presque une cinquantaine de chapitres, de petits chapitres
près,
dedans.
Ouais.
Et à chaque fin de chapitre, celui d'après ne reprend rien de celui d'avant.
Non, alors là, je le fais parfois un peu exprès. C'est une habitude, entre guillemets, que j'ai prise. Et ça change du tout au tout par rapport peut-être au premier roman, Chacun se retourne des bras de grand-mère, où là, il y a une suite chronologique, il y a une suite dans les événements, dans les lieux, etc. Là, j'ai voulu un peu varier. Et vous verrez que dans le 3, c'est encore plus vif parce qu'il y a des changements de lieu et donc de personnages dans chaque chapitre.
Mais c'est vraiment ça, on a un pulse de 50 pièces, on a l'impression, et petit à petit, crac, on en met deux ensemble, on en met trois ensemble. Tiens, il y a tout ça qu'on ne comprenait pas, que tout d'un coup on voit. Et ça donne vraiment une dynamique. Il n'y a pas non plus...
Il n'y a pas de temps mort, en fait.
Il n'y a pas de temps mort dans le récit. Et il n'y a pas de temps mort dans l'écriture. C'est-à-dire que souvent, les premiers ou deuxièmes livres, le défaut un peu, c'est d'utiliser un champ lexical. Alors, il pleut, la pluie, le gris, le temps. Hein. Et là, non, il y a vraiment l'essentiel. Et chaque scène, enfin, je pense notamment à celle du braquage devant la poste, je crois d'ailleurs.
C'est dans la rue piétonne de Castelnau-le-Lez, en fait.
Mais il y a vraiment l'essentiel. C'est-à-dire, comment ça commence, il devait être deux, ils sont trois, tout est condensé.
Ben, les choses simples doivent s'énoncer facilement. Vous savez que j'ai quand même dû rédiger quelques rapports de cour d'assises. Alors, il faut qu'on vous lise jusqu'au bout. Ça peut faire 20, 20, 30, 40, 50 pages. Il faut qu'il y ait un style fluide et puis ne rien omettre, être concis et pas besoin d'employer des mots qui parfois sont très compliqués. Il m'est arrivé de lire certains rapports avec des nonobstants à droite à gauche. Voilà, ça n'apporte rien, je pense, à l'écriture.
Mais c'est rare.
Mais par rapport au style, je sais qu'une de vos collègues, la responsable de la Gazette Montpellier, elle parle de style sans concession.
Exactement.
Et j'ai une amie qui est journaliste, représentante pour le Midi Libre à Saint-Rézéry, qui me dit « Mais non, tu es direct ». Voilà. Mm-hmm. Et c'est vrai que je pars rarement dans de grandes descriptions. Il y a peut-être un peu plus dans le troisième, parce qu'il y a un passage à Bayonne ou dans les Landes, c'est un endroit où je vais depuis 15 ou 20 ans. Effectivement, je me suis peut-être un peu plus attardé, et pas longtemps, hein, deux, trois pages pour vraiment situer la ville, l'endroit, etc. Mais autrement, je laisse l'imagination du lecteur et du lectrice. J'ai ma metteuse en scène au niveau théâtre, Denise Gojou, qui me dit toujours « Mais le public est intelligent, il comprend. » Fort de ça, je me suis évité d'avoir à me lancer dans un style narratif ou des narrations qui nécessitent peut-être de la recherche. Voilà. Après, je suis peut-être plus à l'aise dans du dialogue ou des scènes plus concises. Mais comme on s'est dit hors antenne, moi j'écris pour me faire plaisir d'abord. Voilà. Après, si ça plaît, tant mieux.
Alors cet abominable Justin, on comprend que c'est lui quand d'ailleurs vous le dites, le prénom de Justin après la scène de viol où on l'appelle Just. Il se fait. Pareil, la scène de viol, elle est très très forte. Quoi. Le petit chapitre, je dirais que l'adjectif que je mettrais le plus sur le style, c'est efficace. Il y a une énorme efficacité. Voilà, économie de mots, efficacité, portrait au ciseau. Vraiment, hein, c'est couteau, vraiment, le personnage, il n'y a rien qui est inutile dans la description du personnage.
Il y a deux questions en une, mais quand j'écris, les mots que j'emploie, il faut que j'arrive à visualiser le personnage. Si je n'y arrive pas, je vais le reprendre. Mais ça m'arrive rarement, mm-hmm. J'ai déjà le dessin en tête au moment avant que je tape. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de travail autour honnêtement, non. Alors, je vais dire non parce que j'ai l'impression que cela me vient relativement facilement. Après 40 ans dans la police, des gens borderline, j'en ai rencontré quelques wagons. Donc, à un moment donné, j'ai peut-être de la matière. Après, je suis un très gros lecteur. Donc... est-ce que quelque part dans un coin de ma tête je tire parti ou profit des milliers de livres, surtout de polar que j'ai pu lire, je pense que ça m'aide aussi quelque part, mais il n'y a pas vraiment de grosses recherches. Les rares recherches que je fais c'est sur internet évidemment, et qu'à un moment donné j'essaie de ne pas me tromper dans les distances d'un point à un autre. Les dates qui figurent dans mes bouquins, j'ai vraiment un calendrier devant moi, mm-hmm. 2018-19, et je note les dates, et si vous recherchez la date, c'est vraiment, ça correspond vraiment à ce jour-là. Et la particularité de mes enquêtes, c'est que elles sont résolues dans la semaine. Elle commence à lundi, elle finit le dimanche. Voilà, c'est un truc que j'ai voulu garder aussi.
Le plus borderline, c'est, pour moi, c'est, enfin, je ne sais pas, je crois que c'est le maire quand même qui me débecte le plus de personnalité comme ça, de se croire supérieur à tout le monde, ce rapport avec le pouvoir. Après, le truand, c'est le truand. Il est dans l'archétype et dans son rôle.
Oui, Félix Gaetano, oui,
voilà. Oui, voilà, il n'est pas ni décevant, ni rien, il est dans son rôle de truand. Soi-disant reconverti, Corti, il n'en sera jamais dupe de ça. Et puis, l'entrepreneur de travaux publics, il est terrible aussi. Les femmes dans ce Vous abordez les femmes d'une drôle de façon, d'ailleurs, avec beaucoup de tendresse, mais elles sont très victimes du machisme.
C'est bien que vous le disiez avec beaucoup de tendresse, parce que certaines, alors pas 50, mais il y a peut-être une ou deux personnes, l'agence féminine, qui m'ont dit que les femmes n'étaient pas assez mises en valeur dans mes romans. Et moi, je leur réponds, mais mes femmes sont des femmes libres. Peuvent dire non à Jo Corti, ça leur fait des avances. Et puis là, on parle d'égalité homme-femme, mais les femmes aussi sont en droit de faire des avances à un homme en général, et à Jo Corti en particulier. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Après, la tendresse, oui, parce que, je ne vais pas dire qu'il y a une propension chez les Corses à idolâtrer la femme plus qu'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a... un respect commensurable pour la mère, la notion de famille est peut-être plus exacerbée, dans le sens où on va peut-être franchir le pas à un moment donné si on s'attaque à la famille et à la mère ou à la femme ou à l'enfant.
Mais même le portrait de la jeune fille qui se retrouve, je les connais ces jeunes filles, enfin celles qui se suicident, c'est ce qui est pris dans un engrenage sans vouloir vraiment y être, c'est un portrait triste.
Et d'ailleurs, elles sont dépassées à un moment donné parce qu'il y a elles mettent le doigt quelque part, et puis à un moment donné, elles sont broyées par la machine, et elles n'y ont pas pensé au départ, mais à 18 ans, quand cette gamine se rend à une soirée, qui est juste une soirée, où elle va faire office de barmaid, entre guillemets, et ça va plus loin, et ça dérape, alors certaines de ses copines, elles, sont entrées dans le jeu pour diverses raisons, mais elle, effectivement, elle est dépassée par les événements, voilà, et les événements la dépassent, la rattrapent, la dépassent, et ça va très très loin. Après, ce sont des choses qui peuvent... qui malheureusement arrive plus souvent qu'on ne le pense ou qu'on ne le dit. Hein. Donc après, ce que je cherche et je recherche avant tout, c'est être crédible. C'est-à-dire, je veux pas raconter une histoire qui dépasse un certain entendement, voilà. Et que quand les gens lisent mes bouquins, disent, ouais, bon, malheureusement, ça existe. Mais il faut que ça cadre et ça colle à la réalité, voilà.
Fred Bolloxé, il nous reste 2 minutes.
Ah, donc ben on va, oui, le temps
oui,
passe
ça
très
va
vite.
Très très vite. Ouais. Ça va très très vite. Juste pour vous retrouver d'abord, où on peut le trouver le livre?
Alors,
comment?
Tous mes livres sont. Alors, ils sont tous, y compris une comédie que j'ai sortie en cours d'année. Le sage est-il détaché du sexe et de l'argent? Tous mes livres sont chez Leclerc Saint-Onès.
D'accord.
Ils sont aussi chez Soramps Comédie. Allez voir Julien. Il est. C'est un gars hyper sympa et qui est très compétent dans son domaine. Voilà. Ils sont aussi chez Soramps Odysseum. Ils sont à la librairie Press & Book. Allez voir Françoise. Elle est aussi une passionnée. C'est une librairie dans le quartier d'Aiguelon, rue de la Roqueturière.
D'accord.
Et Montpellier se trouve aussi chez Cultura. Chez Cultura. Après, moi, je fonctionne beaucoup en journée de dédicace. Et c'est vrai que les. Alors là, il n'y a pas de dépôt vente, mais les journées de dédicace dans les espaces culturels de centres commerciaux, la mesure où il y a énormément de monde, voilà, j'arrive à me faire connaître de cette façon.
Dès que les salons prendront, bah, vous nous donnerez les rendez-vous.
Ben,
puis on invitera les gens à venir vous rencontrer.
Voilà.
Je comprends vraiment, je suis très emballée. Vraiment, c'est
merci.
Une jolie rencontre au salon de Pignan. Il y a un an,
et après voilà. On s'est perdu de
on
vue.
On s'est un peu perdu de vue. Je suis ravie, vraiment. Je conseille fortement donc Montpellier Confidentiel. Et bien sûr, j'aime pas dire, mais chez Amazon, vous pouvez tous le commander.
Et aussi chez Amazon, mais voilà, c'est un peu ma. Enfin, heureusement, parce que les auto-édités, nous passons
bien
tous
sûr.
Par Amazon. Mais c'est pas là où j'ai vraiment mon public.
Comme j'ai plein d'amis libraires, je pousse toujours déjà nos auditeurs à aller chez les libraires. Merci beaucoup Fred Bolloxen et j'espère vous recevoir le prochain.
Ben, j'espère aussi.
À très bientôt. Au revoir.